Chapitre 4. C'était bien elle. Sa robe, un peu moins montante qu'à l'ordinaire, laissait voir un commencement d'épaule d'une blancheur éblouissante. Sans cesser d'être virginale, sa toilette avait fait aux exigences du monde les sacrifices indispensables. Ainsi dégagés des voiles dont le surchargeait une pudeur peut-être trop susceptible, les formes gracieuses de son buste ressortaient dans toute leur harmonie. Sa tête jouait plus librement sur un col dont rien n'interrompait les lignes antiques, excepté une imperceptible chaîne de Venise, mince comme un cheveu, qui soutenait une petite croix de diamant. Elle occupait avec M. Després le devant de la loge. Rudolphe se tenait debout, dans le fond. Toutes les lorgnettes étaient braquées sur Calixte. Chacun se demandait « Mais quelle est donc cette charmante personne, si jeune, si jolie, d'une grâce si naturelle, d'une dignité si modeste, qui écoute sans étonnement et sans indifférence, et n'a pas l'air de se douter quel est le point de mire de cette foule ?»« Comment se fait-il que Rudolphe soit dans sa loge ?» ajoutaient ceux qui connaissaient ce dernier. « S'il sort dans les entractes, sort de lui le nom de cette naissante étoile de beauté. » Leur attente fut trompée, car le baron tint fidèle compagnie à Calixte et à M. Després. Jamais d'Alberg n'avait vu sa bien-aimée si belle. Il ne la connaissait pas sous cet aspect de grâce sérieuse et de mélancolie sereine. Jusqu'alors, chez Calixte, le côté pensionnaire et jeune fille avait prédominé. Et d'Alberg, au lieu d'une enfant, retrouvait une femme. Ses regrets, un instant assoupis, se réveillèrent avec une vivacité extraordinaire. Un immense désespoir s'empara de lui, mêlé d'un tel accès de rage contre Amine que s'il eût eu un couteau sous la main, il l'aurait certainement poignardé. Amine, s'étant retournée, vit la figure de d'Alberg tellement décomposée et d'une pâleur si verdâtre que la frayeur s'empara d'elle et qu'elle se recula jusqu'à l'autre angle de la baignoire, en ayant soin de se mettre en vue de peur de quelque violence de la part de son compagnon. Faute de mieux, d'Alberg déchiquetait un de ses gants. Jusqu'à présent, il n'avait éprouvé que les tristesses de l'amant exilé. Maintenant, les dents de rat de la jalousie lui mordaient le cœur. Amine aussi avait changé de couleur. D'après le portrait, elle ne s'était pas figuré une semblable perfection, car les femmes de sa sorte ne croient pas ordinairement à la beauté des filles vertueuses qu'elles se représentent volontiers comme gauches, disgracieuses, bossues ou mal habillées. Elle s'expliqua la conduite d'Henri, qui jusque-là lui avait paru incompréhensible, et un soupir de dépit qu'elle étouffa dans son bouquet, sorti de sa poitrine oppressée. « Allons, se dit-elle tout bas, c'est le moment d'être belle ou de mourir. » Et par un appel désespéré à la réserve de ses charmes, elle réunit une telle somme de beauté qu'elle en devint comme phosphorescente. Elle trouva une pose incomparable, un regard qu'elle n'eut que cette fois, une expression qu'on ne reverra plus. Ce poème sublime ne fut pas écrit malheureusement, car ni M. Ingres ni M. Pradier n'étaient là. Mais que savez-vous en ce moment, artiste souverain? Cadeau Camille aujourd'hui, elle éclate comme un bouquet de feu d'artifice, se demandèrent plusieurs lions étonnés. « Courage, Henri, disait Amine à d'Alberg, ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir pâle et défait comme un condamné à mort. »« Calixte est regrettable, c'est vrai. Je sais quand il faut convenir de la beauté d'une autre, mais suis-je à dédaigner, moi? Regardez comme tout le monde m'admire. Il suffit d'une étincelle tombée de mes yeux au hasard pour allumer une flamme qui ne s'éteint pas. Les plus beaux, les plus illustres, les plus riches, se précipiterait pour ramasser mon mouchoir. Voyez comme toutes ces duchesses, toutes ces femmes de banquiers tâchent de détourner l'attention de leurs amants. Elles savent bien que si je les voulais à mes pieds, avant 1 heure, ils y seraient. Cette place près de moi, vous paraissez à la torture et vous vous tordez comme un incas sur le grill pour un objet de leur vie générale. Chaque homme se dit « Oh, l'heureux d'Alberg !» Chaque femme cherche une tache, un défaut à travers le grossissement de la lorgnette. Elle ne trouve en rien, se retourne furieuse pour quereller son mari. Dalberg fit un effort sur lui-même, remit à peu près en place les muscles de sa figure et prit des apparences plus tendres et plus intimes avec Amine, dans l'espérance de rendre ainsi à Calixte le chagrin qu'elle lui causait. Pendant l'entracte, Calixte promena des yeux vaguement autour de la salle. Quand ce regard tomba sur Amine, il eut comme un choc électrique, mais la courtisane se sentit intérieurement vaincue. Elle fut anéantie par ce regard lumineux, froid, presque distrait, écrasant d'indifférence, et s'affaissa sous lui comme le démon sous le pied de l'archange. Pourtant, Dalberg, penché vers elle, semblait lui tenir quelque tendre propos. La bouche du jeune homme effleurait presque sa joue. Rien n'avait tressailli sur la figure de Calixte, ni pâleur ni rougeur. Sa prunelle avait tranquillement achevé son tour, et, son inspection terminée, la jeune fille s'était retournée vers Rudolf pour lui demander le programme. Elle fait si peu cas de moi, se dit Amine, qu'elle épouserait Dalberg demain, quoiqu'elle ne l'ait vu avec moi ce soir, en loge grillée à l'opéra. Oh, je ne suis pour elle qu'une levrette, un colibri, un poisson rouge, un être de race inférieure et différente. Rudolf, tout fin qu'il était, ne jugea pas le calme de Calixte aussi sainement qu'Amine. Il l'attribua à d'autres causes. Au refroidissement de la jeune fille pour Dalberg, et peut-être même aussi à une bienveillance naissante pour lui. Rudolf amoureux n'était plus clairvoyant, le bandeau lui descendait sur les yeux comme aux autres. C'est sans doute cette coquine de Madame Beauvillet qui était là en face, dans ses baignoires, avec ce gredin d'Henri Dalberg, dit-il très bas. Hein, monsieur Desprez au baron. Oui, répondit Rudolf. Il ne se quitte plus maintenant. Prêtez-moi donc votre lorgnette que je la regarde un peu en détail, continua le notaire. Si jamais surprise se manifesta clairement sur une face humaine, ce fut sur celle de monsieur Després après qu'il eut contemplé quelque temps Amine au bout des 2 énormes tubes d'ivoire. Le brave notaire n'avait aucune idée de l'élégance parisienne parfaite et du comme il faut extérieur où arrive la corruption dans un certain monde. Amine lui fit l'effet d'une marquise en bonne fortune avec son cousin. Elle lui parut ce qu'elle était, ravissante. Sa mise, d'une simplicité si gracieuse et où la modestie de Calixte n'eût rien trouvé à reprendre, renversait toutes les idées du bonhomme. Selon lui, une espèce de ce genre devait porter des plumes de toutes les couleurs, des robes ponceau ou jonquilles, brodées de clinquants et de paillons, des chaînes d'or à 3 tours et des pendeloques de strass. Son érudition sur cette matière remontait à des souvenirs de jeunesse. Lorsqu'il n'était encore que petit clerc, il avait admiré en attirail de ce goût ce qu'il appelait des créatures dans les galeries du bois du Palais-Royal. Il croyait qu'il en était toujours ainsi. La date éloignée de ses renseignements faisait l'éloge de la moralité de l'ex-notaire. La toile se releva et le ballet continua, accompagné d'applaudissements et de cœurs de canne. Carlotta dansait. De temps à autre, Calice se retournait à demi vers Rudolf pour lui demander l'explication de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Rudolf, habitué de l'opéra depuis maintes années, traduisait couramment la pantomime. La chorégraphie n'avait pas de mystère pour lui. Dans cette position, la jeune fille représentait l'un de ces délicieux profils perdus, si chers aux grands peintres, et où les dessinateurs mettent toute leur finesse. La fureur de Dalberg, à la vue de ces familiarités insignifiantes en tout autre cas, ne doit pas étonner quiconque a été jaloux. Il lui prenait des envies de monter à la loge de M. Després et d'insulter Rudolf. Calice lui paraissait un monstre de perfidie, une misérable, une infâme. À côté d'elle, Amine, qui au moins, elle, ne trompait personne, était l'innocence même. Il ne comprenait pas comment on pouvait cacher un cœur aussi faux sous de tels dehors de sincérité. Mais qui eût jamais pensé cela? Elle se laisse faire la cour par ce Rudolf pour me rendre fou de rage. Les femmes honnêtes ou non ne connaissent donc pas d'autre moyen de vengeance que de se déshonorer ou se compromettre. Pensez-vous maintenant que Mademoiselle Després mourra de chagrin de votre perte? Dit Amine de sa voix flûtée et railleuse au pauvre Dalberg qui se déchirait la poitrine sous son gilet. Voilà votre conscience déchargée d'un grand poids, et désormais vous pouvez sans remords accorder quelque attention à votre humble esclave. À la sortie du spectacle, les deux groupes se rencontrèrent sur l'escalier où l'on attend les voitures. Calixte, qui donnait le bras à son père, effleura de son manteau de cachemire le burnous blanc d'Amine. Rudolf, en avant de quelques pas, cherchait à reconnaître son valet de pied parmi les livrées de toutes couleurs qui encombraient le vestibule. La foule était compacte et, pendant quelques secondes, Amine et Dalberg, M. Després et sa fille, furent obligés de stationner sur la même marche. Cette minute parut un siècle à Dalberg. Pour Amine, elle prit sa revanche du regard de Calixte. Elle se composa une physionomie si rayonnante d'amour, s'appuya au bras d'Henri avec une câlinerie si voluptueusement pudique, se serra contre lui d'un air si confiant dans sa protection, car le flot de la descente faisait chanceler les groupes stationnaires. Elle l'enveloppa si bien de caresses invisibles et en prit si complètement possession que Calixte, qui vit ce manège à son adresse, bien qu'elle eût la tête tournée de l'autre côté, eut l'âme traversée par un doute, le premier et le seul. Ce fut qu'un éclair, mais la douleur avait été si atroce que Calixte se sentit subitement baigné de sueur dans son corsage. Heureusement, Rudolf revint. Dalberg lui jeta un coup d'œil si plein de mépris, de haine et de fureur que Calixte, au milieu de l'épouvante que lui causait l'imminence d'une provocation publique, car de tels regards équivalent à des soufflets, éprouva un sentiment de bien-être délicieux. Henri l'aimait toujours. Comprenant ce qu'une pareille scène en pareil lieu aurait d'odieux et de ridicule, Dalberg se contint, recouvra son sang-froid et couvrit sa colère d'un masque de dédain glacial. La foule s'écoula, Rudolf, Després et Calixte montèrent en voiture et Dalberg reconduisit Amine chez elle. À peine monté dans sa chambre, Calixte, sans se déshabiller, sans même prendre la peine de fermer sa porte, prit une feuille de papier, écrivit rapidement quelques mots dessus en piquant la plume dans la pulpe du citron qu'on mettait chaque soir près du verre d'eau qu'elle avait l'habitude de boire, et courut à la pendule. Oh Dieu soit loué, il est encore temps. En effet, le ballet, précédé d'un acte du serment, s'était terminé peu avant dans la soirée. Les chevaux de Rudolf allaient vite, et la vieille horloge de Saint-Germain-des-Prés tinta 11 coups avec une lenteur solennelle. Le joueur d'orgue va passer. En effet, un air de polka, entremêlé d'assez de fausses notes pour faire hurler tous les chiens du quartier, détonnait déjà à l'autre extrémité de la rue et se rapprochait rapidement. Il s'arrêta sous la fenêtre de Calixte, et celle-ci, sans s'inquiéter de ses bras nus et de sa poitrine découverte, pencha son corps dans la noire fraîcheur qui régnait au dehors et lança au joueur d'orgue sa bourse enveloppée d'un papier stigmatisé et de signes mystérieux. Le pauvre d'Albergue passa une nuit affreuse. La pensée d'avoir été vu par Calixte, qui devait le croire perdu de douleur et de regret en compagnie de celle qu'il avait trahie, le chaste secret de leurs amours, et livrer l'image adorée au ricanement d'une troupe de courtisanes et d'imbéciles, lui donnait des transports de rage. Maintenant, se disait-il, elle aura raison d'écouter Rudolphe. Ne l'ai-je pas justifié d'avance par ma conduite? Et moi, qui confiais à ce traître le soin de mes intérêts et le chargeais de parler pour moi à M. Després, triple sot que je suis! Comme il doit se moquer de moi, comme il doit rire de ma crédulité, stupide! Je saurais bien trouver les moyens de le rendre sérieux. Je le provoquerai en duel. Il faudrait qu'il rétracte ses infâmes calomnies devant Calixte et M. Després ou je le tuerai. Le lendemain, dès l'aurore, l'albergue, qui n'avait pas dormi et qui ne pouvait tenir en place, tirait de toutes ses forces le pied de biche ferré d'argent suspendu à la porte de Rudolphe. Un valet, à moitié endormi et recouvert à peine des vêtements les plus indispensables, vint ouvrir au bout d'une demi-heure et dit à Dalberg d'un air fort grognon et fort bourru: « Que diable, on vient pas chez les gens une heure après qu'ils sont couchés, repassez tantôt. « Il faut absolument que je parle à votre maître pour une affaire qui ne souffre pas de retard. « Tu sais, pour de l'argent, vous avez tort de vous déranger si matin, monsieur le baron ne paye que le soir. » Allez porter cette carte à votre maître. Mais non, il dort de toute la force de la première somme. Mon maître a le réveil brutal. Trêve de réflexion, marchez devant moi, je vous suis. Le ton de Henri était si impérieux que le domestique ne lui fit point d'objection. Ah, c'est vous, Henri, dit le baron, enveloppé à la hâte d'une robe de chambre algérienne, en étendant les bras à se faire craquer les jointures et en bâillant à se décrocher la mâchoire. Du diable, si je vous attendais! Il est bien matin pour me parler de vos amours. La soirée d'hier n'a pas arrangé vos affaires. Vous n'avez pas de chance, vraiment, et moi qui me tuais à vanter votre belle conduite à M. Després. Calix vous en voudra 6 mois de cette rencontre sur l'escalier. Assez de mensonges, de trahisons, de perfidies comme cela, monsieur. Faites-moi l'honneur et le plaisir de ne plus me prendre pour un sot. Mais sur quelle herbe avez-vous marché aujourd'hui, mon cher Henri? Je passe à votre désespoir amoureux des libertés qui seraient fort malvenues de la part de tout autre. Je vous remercie de votre magnanimité, baron. Fâchez-vous, cela me fera plaisir. Prenez mes paroles dans le sens qui vous déplaira. C'est un duel que vous voulez? Oui, un de nous est de trop sur terre. Mais vous parlez comme un cinquième acte de mélodrame, mon cher. Tout cela n'a pas le sens commun. Il n'y a pas entre nous le plus léger motif de querelle. On vous chasse d'une maison pour une histoire de portrait qui fait prendre la mouche au père et à sa fille. Si je fais quelque chose, moi, là-dedans. Vous m'envoyez plaider votre cause. J'explique comment tout s'est passé. Je fais votre éloge. Monsieur Després ne veut plus entendre parler de vous sous aucun prétexte. Il prétend que vous êtes un joueur, un débauché, un chenapan. Et mademoiselle Calixte conserve le plus vif ressentiment contre vous. Elle vous croit l'amant de la Beauvillier, elle vous en reparlera de sa vie. Qu'est-ce que j'y puis faire? Je veux que vous ne mettiez plus les pieds chez M. Després, Je vous défends de vous occuper de Calixte. Mon cher, vous délirez. Avez-vous la prétention que Mademoiselle Calixte passe le reste de sa vie à regretter dans la solitude l'amant heureux d'Amine, et comptez-vous pourfendre tous les gens qui lui feront la cour? Ce ne sera pas du moins vous qui la lui ferez. Pourquoi pas? Dès que vous êtes hors de cause, le champ est libre, même pour moi. Si vous étiez encore reçu dans la maison, bien vu de la jeune fille, et que j'eusse essayé de vous supplanter, je concevrais votre colère, qui m'étonne beaucoup dans les conditions où vous êtes. Je saurais bien vous forcer à vous battre avec moi. Ben, j'espère que non, à moins d'une insulte publique et grossière. Ben, vous pensez peut-être que ma bénignité vient d'un manque de cœur. J'ai fait mes preuves et je vais vous prouver qu'un duel ne peut avoir rien d'inquiétant pour moi. John, apportez les pistolets à capsule et placez la plaque de tôle contre le mur. John obéit avec un sang-froid parfait. « Le pistolet est-il chargé ?» demanda Rudolph. « Oui, monsieur le baron, » répondit le domestique. « Je vais me faire un but, » dit Rudolph en collant un imperceptible pain cacheté sur la plaque. Il tira sans presque ajuster. Le pain cacheté avait disparu. Cette épreuve fut renouvelée 12 fois de suite avec le même succès. Toujours la balle s'aplatissait sur le point blanc. Il se vit ensuite suspendre un plomb au bout d'un fil, et à chaque coup, le plomb tombait. Henri regardait en silence. « Eh, je suis plus fort à l'épée !» dit Rudolph. « Eh bien, vous me tuerez, voilà tout, mais je saurais bien vous forcer à vous battre !» répliqua Henri. Et il se retira après un salut cérémonieux. En effet, le baron Rudolph, qui dînait au café de Paris, reçut le soir même un verre de vin à travers la figure de la main de Dalberg, assise à une table voisine. L'adresse de Rudolph à l'escrime et au tir était si connue qu'après cet affront, Dalberg fut regardé comme mort et qu'on en parlait déjà à l'aoriste. Depuis longtemps, Rudolph ne se battait plus, par suite d'un scrupule analogue à celui qui empêche les prévôts de salle d'avoir des duels avec les bourgeois. L'insulte était si publique que l'affaire n'était pas arrangeable. Chacun des deux adversaires avait là des amis qui ne purent refuser leur assistance comme témoins. Et le rendez-vous fut pris pour le matin suivant à 10 heures au bois de Vincennes, dans l'allée des Minimes. « Le temps me semble incertain, » objecta le personnage barométrique que nos lecteurs n'ont sans doute pas oublié, et qui était l'un des témoins de Rudolph. « Il pourrait bien tomber de l'eau demain. »« Eh bien, » répondit Rudolph, « nous nous battrons le parapluie d'une main et le pistolet de l'autre. Ce sera un duel à la Robinson Crusoe. » On se sépara après s'être donné rendez-vous à la barrière du trône. Dalberg se retira chez lui, fit quelques dispositions testamentaires, écrivit 2 ou 3 lettres et à la rue de l'Abbaye, jeter un regard, peut-être le dernier, sur la fenêtre de Calixte. Était-ce une illusion ou une réalité? Il lui sembla que le pli du rideau, si soigneusement fermé depuis la soirée, qui avait vu la ruine de ses espérances, avait bougé un peu, s'était écarté un instant. Se croyant presque pardonné, il s'était retiré, le cœur plein de joie, de désespoir, sans plus songer à son duel que s'il n'en avait jamais été question. Il était sûr de ne pas mourir. Pour Rodolphe, il était assis dans son cabinet sur une dormeuse et tenait à la main un papier qu'il examinait et retournait en tous sens comme pour y trouver un indice. Ce papier ne contenait sans doute rien d'agréable pour celui qui le lisait, car Rudolph fronçait les sourcils et se mordait les lèvres jusqu'au sang. Une pâleur livide couvrait sa face, et il paraissait en proie à la plus horrible anxiété. « Allons, » dit-il après une longue pause, « il faut se soumettre. On ne résiste pas à des conditions posées ainsi. Et d'où cette lettre diabolique peut-elle venir? L'écriture est évidemment contrefaite. John, avez-vous vu la personne qui a remis ce billet? Non, monsieur, on n'a pas apporté de lettre depuis hier. C'est étrange, dit le baron en remettant dans sa rêverie. Le lendemain, à l'heure fixe marquée, les champions, assistés de leurs témoins, se trouvaient en présence dans l'allée des Minimes. Messieurs, dit le baron, si monsieur Harry d'Alberg veut me faire des excuses, j'oublierai l'insulte qu'il m'a faite hier, quelque grossière qu'elle soit. Ma supériorité bien connue au pistolet et à l'épée, les nombreux duels dont je suis sorti vainqueur, me permettent cette modération qui ne peut faire suspecter mon courage. Un murmure d'approbation accueillit ces paroles, qui furent trouvées de bon goût. Henri se refusa à toute concession. L'on mesura le terrain, l'on plaça les adversaires en face l'un de l'autre à 30 pas. « Que vais-je faire ? » disait Rudolphe. « Si je tirais en l'air, mais cet enragé tout maladroit qu'il est pourrait m'attraper. » Alors, une blessure légère, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Il abaissa le canon de son pistolet. À titre d'insulté, il avait le droit de faire feu le premier. Il tira si vite que le deuxième coup du signal n'était pas encore frappé lorsque la détonation de son arme se fit entendre. D'Alberg était atteint au bras droit. Il tira à son tour, mais d'une main mal assurée, et sa balle passa à 3 pieds au-dessus de la tête de Rudolphe. L'os n'était pas fracturé, et quoiqu'elle le fît souffrir beaucoup, sa blessure n'était pas dangereuse. Cependant, le combat ne pouvait être poursuivi. Il essaya de se tenir debout et de marcher, mais il ne put y parvenir. Les forces lui manquèrent et on le porta évanoui dans sa voiture. Quand il revint à lui, il était dans sa chambre et sur son lit se penchait une charmante tête de femme qui épiait son retour à la vie. « Florence ?» murmura d'Alberg d'une voix que la faiblesse et l'émotion rendaient tremblante. Et en tournant vers la jeune femme un œil plein de reconnaissance, « Vous ici ?»« Oui, moi. » Je vous expliquerai tout plus tard. Maintenant, tâchez d'être calme. Le médecin m'a donné sur vous le plein pouvoir de garde-malade. Dormez, je vais lire. » Et la jeune femme, posant sur ses lèvres vermeilles un doigt effilé où brillait un ongle d'agate, fit signe au blessé de ne pas parler davantage. Henri, malgré les souffrances qu'il éprouvait et l'injonction qui lui avait été faite de dormir, examinait avec admiration, à travers les cils de ses paupières demi-fermées, le profil idéal du jeune ange gardien assis au chevet de son lit. Un rayon de lumière découpait le contour extérieur de cette belle figure par une mince ligne d'or. La joue et le col, baignés d'une ombre transparente, recevaient des feuillets du livre et des draperies blanches du lit des reflets de nacre et d'argent à ravir un coloriste. Il était impossible de rêver rien de plus pur comme forme, de plus suave comme couleur, de plus chaste comme expression. On eût dit une sœur près de son frère malade. Cette jeune femme seule, dans cet intérieur de garçon, avait une réserve si virginale, une tenue si parfaite, que nul n'aurait osé mal interpréter sa présence. D'Alberg, qui avait toujours eu pour Florence une admiration mêlée de respect, tant elle était visiblement supérieure à la sphère qu'elle occupait, se demandait à quel titre il avait pu inspirer un tel intérêt à cette belle et noble créature. Des rapports peu fréquents, décousus, sans intimité, n'expliquaient pas suffisamment cette marque d'affection qu'on aurait pu tout au plus attendre d'une maîtresse ou d'une amie ancienne. En cherchant bien, Dalberg se rappela qu'à plusieurs reprises, il avait surpris les yeux de Florence attachés sur lui avec une sorte de fixité. Mais Dalberg n'était pas fat. Il ne tira pas de cette induction la conséquence que Florence fût amoureuse de lui. Et il attribua une simple bonté de cœur, cette démarche que tout autre eût trouvée significative. Quelle qu'en fût la raison, il accepta son bonheur sans plus chercher à l'expliquer, et ses souffrances s'apaisant un peu, ses paupières alourdies finirent par se fermer tout à fait. Il fit toutes sortes de rêves incohérents et bizarres, parmi lesquels un le frappa vivement. Il lui semblait que Calixte, par un caprice de jeune fille curieuse, avait voulu visiter sa chambre, et saisi pour satisfaire cette fantaisie un jour qu'il était absent, et bien que dans son rêve il fût hors de son logis, il n'en voyait pas moins la jeune fille qui sautillait çà et là, regardant les aquarelles, touchant à tout, aux arbres, aux narguilés, aux boucas, prenant les uns pour les autres les cannes de verdier de Thomassin, remuant les bijoux et les cachets dans le baguier, ouvrant les tiroirs et furetant partout avec une pétulance joyeuse. Son apparition soudaine avait fait fuir la jeune fille. À cet endroit de son rêve, il se réveilla en sursaut. Une forme blanche et svelte, celle de Calixte à ce que crut Dalberg, disparut rapidement et la porte se ferma sans bruit sur un pli de robe. « Qu'avez-vous, Henri ?» dit Florence en s'inclinant sur l'oreiller du malade. « Est-ce que votre blessure vous fait beaucoup souffrir? Voulez-vous que je vous donne à boire ?» Le malade parut surpris de ne voir que Florence dans la chambre. « Bah !» se dit-il à part lui, « je rêvais encore. Calixte ici est vraisemblable. Oh, la fièvre me trouble la cervelle et me donne des hallucinations. » Le médecin vint, leva l'appareil et déclara qu'une quinzaine de jours suffirait à cicatriser la plaie. Le soir même du combat, Amine, qui après avoir attendu Dalberg toute la journée, s'était informé de lui ne le voyant pas apparaître et avait appris le duel à son insu, vint rendre visite au blessé. En entrant, elle aperçut le cachemire jeté sur le dos d'un fauteuil et la capote suspendue à la patère du rideau, avec ce coup d'œil perçant de la femme qui surpasse pour la rapidité celui de l'huissier ou du commissaire-priseur. Sa figure prit une expression de dépit. Ses petites narines roses gonflèrent. « Oh, je suis distancée !» dit-elle en empruntant une phrase au style hippique dont les relations léonines lui avaient donné l'habitude. « Est-ce que, par hasard, cette petite bégueule qui laissait tomber sur moi l'autre soir comme une douche à la glace son regard froid serait ici aujourd'hui ? Vertu, ce sont là de tes tours ?» Florence, qui était allée chercher quelque chose dans la chambre voisine, fit cesser ce doute en reparaissant. Les deux femmes se toisèrent un instant en silence, de l'air le plus dédaigneux du monde. Amine rompit l'arrêt la première, et s'approchant du lit de Dalberg, elle lui dit « Je venais, mon bon ami, vous offrir mes services de garde-malade, mais je vois que Florence m'a devancé. C'est d'une belle âme. Je relèverai madame quand elle sera fatiguée. Êtes-vous né sous une heureuse étoile? Vous vous battez avec Rodolphe, vous n'êtes pas tué, ce qui ne s'est jamais vu. Vous en êtes quitte pour une blessure d'agrément qui vous fera porter un mois le bras en écharpe et vous rendra intéressant aux yeux des femmes. Amine et Florence se disputent le plaisir de passer la nuit à votre chevet. Oh bien, je ne vous conseille pas de vous plaindre. » Ayant débité sa tirade, Amine s'installa carrément dans un fauteuil comme quelqu'un qui veut faire une longue séance. Florence avait repris sa place au chevet du lit et continuait sa lecture. Henri regardait ces deux femmes si charmantes l'une et l'autre, et si dissemblantes pourtant. La beauté de l'une avait quelque chose de perfide, de cruel, de dangereux. Grâce de chatte, charme de sirène, attrait de fleurs vénéneuses. On s'alarmait de l'aimer. La beauté de l'autre était franche, sympathique, pleine de noblesse et de générosité. On sentait qu'on pouvait sans crainte lui confier son amour et son bonheur. Telle eût été la femme que Dalberg eût choisie, s'il n'avait pas aimé Calixte. Amine, qui sentait la fausseté de cette situation, prit la parole résolue à en sortir violemment. « Allons-nous encore longtemps rester à nous faire les yeux en dessous et les griffes allongées comme des sphinx en arrêt ? Oh, je trouve que nous avons assez posé, madame et moi. »« Que voulez-vous dire, Amine ?» répondit Dalberg. « Je ne vous comprends pas. »« Mais c'est pourtant bien simple. »« Expliquez-vous de grâce. »« Mais je vais dessiner votre situation respective en trois mots. » Calixte vous hait, et nous vous aimons toutes deux, choisissez. Florence même, est-il possible ? S'écria Dalberg. Et dans l'étonnement de sa joie, il tourna vers la jeune femme, interdite et rougissante, des yeux pleins d'interrogations et de flammes. Oh, ce n'est pas moi qui ai la pomme, dit Amine en se levant. Je vous laisse heureux couple, je vous laisse, vous avez besoin de solitude, et je vais chanter votre épithalame dans tout Paris. Adieu, Dalberg, vous ne serez jamais qu'un sot. Adieu, Florence, c'était bien la peine de faire la prude si longtemps. Quand la complice de Rudolf fut partie, Florence, suppliée par Dalberg, avoua, oui, que depuis longtemps elle éprouvait pour lui une tendresse qu'elle avait tâché de combattre, le voyant occupé d'autres soins, et que c'était cet amour qui l'avait fait aller chez Amine le jour de la promenade au bois de Boulogne, se désespérer à la vue du médaillon et courir éperdu sur le lieu du combat. « Mais, ajouta-t-elle, oh, je sais que votre cœur est à une autre, et malgré l'aveu que je viens de vous faire, vous ne trouverez en moi qu'une amie. » Oh, c'est pas Amine que je redoute, je vous prie de le croire, dit-elle en relevant la tête avec une fierté charmante. Toute la semaine, Florence vint passer l'après-midi près du chevet de Dalberg. Dalberg n'oubliait pas Calixte, mais il y pensait avec une autre amertume, moins âcre, et les charmes de la consolatrice allégeaient beaucoup sa douleur. Lorsqu'il put sortir, sa première visite, comme vous le pensez bien, fut pour Florence, qui le reçut avec cette familiarité noble, cet empressement affectueux et cette prévenance gracieuse dont elle avait le secret. Dalberg revint le jour suivant et resta plus longtemps que la veille. Or, les moments qu'il passait avec Florence, la vie lui semblait d'une tristesse affreuse. L'image de Calixte le repoussant, le regret de sa félicité perdue, le jetait alors dans les plus noires mélancolies. Près de Florence, il croyait à la possibilité de l'oubli, à l'épanouissement d'un nouvel amour. Il faisait des paradis en Espagne, et sur les ruines de son bonheur, il voyait déjà s'élever un édifice doré par le soleil. La beauté si parfaite de la jeune femme le fascinait malgré lui, par ses enivrantes promesses. Sculpteur, il l'eût divinisé. Poète, il l'eût chanté. Sultan, il l'eût payé de tout son trésor. Son esprit délicat et fin le ravissait, et les heures s'envolaient comme des minutes, lorsque, assis à ses pieds, il avait avec elle une de ces conversations ailées qui font le tour du monde et de l'âme. Rudolf, pendant ce temps-là, avançait de plus en plus dans les bonnes grâces de M. Després. Sa modération dans son duel avec Dalberg lui avait fait beaucoup d'honneur. Calixte ne témoignait pas de répugnance formelle à son endroit, soit que la passion vraie et profonde du baron, plus amoureux que jamais, l'eût réellement touché, soit qu'elle voulût se venger ainsi de la conduite de Dalberg. On parlait même d'un projet de mariage entre Rudolf et Mademoiselle Després. Henri, voyant qu'il lui fallait renoncer définitivement à la chère espérance de fléchir un jour le cœur vindicatif de Calixte, avait pris une résolution violente et s'était démontré qu'il devait adorer Florence. Jamais fureur de désespoir ne ressembla plus à de la passion. Dalberg s'y trompa et crut aimer comme si on aimait deux fois. Il ne quittait presque plus Florence, qui pourtant lui opposait une résistance invincible et singulière après l'aveu qu'elle lui avait fait. Son amour était devenu une fièvre, un délire, qui semblait quelquefois gagner Florence. Mais au moment où Dalberg croyait qu'elle allait tomber dans ses bras, elle se suivait à l'autre bout de la chambre, et là, droite et fière, elle lui criait en tendant les mains pour l'empêcher d'approcher. « Non, laissez-moi, laissez-moi, vous aimez toujours Calixte. » Le pauvre Henri avait beau se jeter à ses pieds, la supplier, lui faire les protestations les plus véhémentes, répandre son âme en dithyrambes enthousiastes, l'entourer des brûlantes effluves du désir et de la volonté, Florence répétait avec force et d'une voix entrecoupée « Non, 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 je ne sens pas que vous soyez à moi. Rien de ce que vous dites ne me persuade. Faites-moi croire que vous m'aimez et je serai à vous. » Ces scènes se renouvelaient souvent et avaient toujours le même résultat. Un soir, Dalberg trouva Florence plus triste que coutume et lui en demanda la raison. « Cet appartement me déplaît, » interrompit-elle. « J'y ai vécu il y a 2 ans avec M. de Turckheim, mon seul amant. N'est-ce pas une chose horrible de recevoir quelqu'un, d'écouter des paroles d'amour entre des murailles qui gardent l'écho d'une autre voix, sur des meubles où s'est reposé celui qui le remplace ? Ne faisons-nous pas là tous deux un métier répugnant ? Qui m'eût dit que moi, Florence, j'admettrais l'amant de Calix dans l'appartement de M. de Turckheim ? » Cette phrase de Florence fut comme une révélation pour Dalberg. Il s'étonna de ne pas avoir eu plus tôt cette délicatesse. Et, sans en rien dire, il acheta dans une des rues qui avoisine les Champs-Élysées un délicieux petit hôtel enfoui dans des massifs de fleurs et de feuillages. Cet hôtel avait été bâti pour servir de pied-à-terre un grand seigneur étranger qui en avait fait un semblable dans toutes les capitales de l'Europe. Lord W. était mort, et ses héritiers n'avaient pas jugé à propos de conserver cette maison qui fut payée 100 000 francs par Dalberg. Une jolie façade sculptée, couverte d'ornements dans le goût de la Renaissance, souriait gaiement au soleil du midi et détachait sa blancheur étincelante sur un fond de fraîche verdure. La cour était petite, mais 2 portes symétriquement percées donnaient aux voitures la facilité d'y tourner. Le jardin, de peu d'étendue, s'agrandissait des ombrages voisins et gagnait en perspective ce qui lui manquait en espace. La distribution de l'hôtel était confortable au possible et ménagée avec une entente supérieure de la vie. 2 amants ou 2 jeunes époux n'auraient pu choisir un nid plus charmant pour leur bonheur. Dalberg, aidé du plus habile tapissier de Paris, meubla son acquisition avec la plus ingénieuse recherche. Il fit de chaque pièce un chef-d'œuvre d'élégance et d'appropriation. Sans tomber dans ses surcharges et ses empattements de luxe qu'il avait été à Florence, Il éleva la richesse jusqu'à la poésie. La chambre à coucher, surtout, était admirable, de simplicité chaste et de quiétude rêveuse. Aucun ton dur, aucun or criard, rien qui attira l'œil. C'était frais et suave comme l'intérieur d'un lys, et Titania n'aurait pas dédaigné d'y dormir. Tout cela fut payé 50 000 francs, ce n'était pas cher. Un jour, Dalberg remit à Florence une petite clé et lui dit « Cette petite clé est celle d'une maison qui vous appartient. » Dans les armoires de l'hôtel, devenu le sien, Florence trouva un trousseau digne d'une jeune princesse qu'on va marier. Sur la cheminée de sa chambre, une délégation de Dalberg sur son banquier pour prendre tout l'argent dont elle aurait besoin. Lorsqu'Amine apprit ses magnificences, elle émit cette réflexion profonde. Décidément, il me manque un vice, l'hypocrisie. Mais elle n'en fut pas moins navrée au cœur. Elle crut Dalberg éperdument épris. La somme d'amour, se calculant dans un certain monde sur la somme d'argent dépensée. Et sa haine instinctive pour Florence s'accrut d'autant. Une chose qui aurait beaucoup surpris Amine, il lui semblait le plus haut raffinement de rouerie possible, c'est que malgré toutes ces profusions, Dalberg n'en était guère plus avancé avec Florence qu'au premier jour. Un baiser sur la main ou au front était tout ce qu'il avait pu obtenir d'elle. Et cependant, à voir les regards brûlants et profonds que Florence attachait quelquefois sur Henri, on aurait juré qu'elle l'aimait, ou il ne faut plus croire à la lueur qui jaillit des yeux et à l'expression du visage humain. « Oh, comme vous l'aimez !» répondait-elle à Henri, lorsqu'il lui avait dit quelque chose de tendre et de passionné. Vous pensiez à elle en ce moment. Et voilà pourquoi votre œil avait de la flamme, votre voix de l'émotion et votre phrase de la poésie. Vous disiez Florence, et vous pensiez Calixte. Dalberg avait beau se confondre en protestation. Florence demeurait inflexible. En lui-même, il sentait qu'elle avait raison. Au moindre signe de Mademoiselle Després, il serait accouru, tremblant, éperdu, plus amoureux que jamais. Il ne se serait pas souvenu que Florence existât. C'était pourtant la personne qu'il aimait le plus au monde après Calixte. Mais en amour, il n'y a pas de seconde place. Ne pouvant la convaincre, il tâchait de l'éblouir, de flatter sa vanité par de riches présents. Tous les jours, c'était quelques bracelets, quelques bagues, quelques parures nouvelles ou bizarres, des fleurs rares, une voiture à la mode ou une paire de chevaux neufs. Depuis qu'il avait commencé à mordre à même son capital, il épuisait à pleine main, comme s'il eût eu le trésor d'Aboulkassem. Florence ne faisait aucune observation sur ses dépenses folles, soit que, habituée à un luxe princier, elle ne les remarqua pas, soit qu'elle crut Dalberg beaucoup plus riche qu'il ne l'était réellement. L'idée que Florence fût avare ou rapace ne pouvait venir à personne. D'ailleurs, ses parures, qui eussent fait délirer de joie presque toutes les femmes, elle les mettait à peine une fois, et plutôt par attention pour Henri que par coquetterie. Le collier, admiré à l'instant, rentrait dans l'écrin et n'en sortait plus. Il n'y avait plus chez Florence une épingle qui ne data de sa liaison avec Dalberg. Mais il est plus aisé de détruire des témoignages matériels, de tirer une existence de son milieu, de faire disparaître toute trace d'antériorité que de vaincre un doute dans une âme jalouse. Et Dalberg ne pouvait parvenir à rassurer Florence. Aussi, gagné par une espèce de vertige, fou de désir, exalté par cette contradiction irritante, en était-il venu à maudire Calixte, qui trouvait le moyen de rendre des fois malheureux? Un matin, Florence, de l'air le plus naturel et le plus détaché du monde, dit à Valbert qu'ayant d'envoyer chercher de l'argent chez son banquier, celui-ci lui avait répondu qu'il n'avait plus de fonds. Le banquier ne possédait plus de capitaux de Dalberg. Il ne restait plus à notre héros que les terres heureusement inaliénables et la perspective d'un héritage d'oncle très bien portant. Il se procura de l'argent à des taux usuraires, et s'il ne reçut pas de chameaux vivants, de crocodiles empaillés et de garnitures de lit en serge d'aumale, comme les fils de famille du temps de Molière, on lui fit accepter des lettres de change à des échéances assez courtes et qui furent protestées, faute de paiement. De ces embarras, Adalbert ne dit pas un mot à Florence, qui les ignora ou ne voulut pas les deviner, et continua ses dépenses, si bien qu'un beau matin, le soleil étant incontestablement levé et brillant dans un ciel plus limpide d'azur, Marie d'Alberg fut délicatement saisie par quatre individus à mine hétéroclite, à vêtements sordides, à griffes crochues, et transportée avec tous les égards possibles dans la prison pour dette. D'Alberg, bien qu'à regret, se décida à faire connaître sa position à Florence, ne doutant pas qu'elle ne vint aussitôt le secourir. Il lui écrivit une lettre où il lui racontait les motifs de son arrestation et lui indiquait la somme nécessaire pour le délivrer. Au bout de 4 ou 5 heures, le geôlier vint dire à Dalberg qu'une dame demandait à le voir. L'idée que ce pût être une autre que Florence ne vint pas au prisonnier, et sa surprise fut au comble. Quant au lieu de celle qui l'attendait, il vit entrer dans sa cellule, devinez qui ? Amine. Ses yeux pétillaient d'une joie maligne, ses petites narines palpitaient, toute sa figure rayonnait de méchanceté satisfaite. Elle était jolie et scintillante comme une vipère en belle humeur. Elle s'avança vers Dalberg avec des ondulations serpentines et lui dit d'un ton de câlinerie perfide « Eh bien, mon pauvre Dalberg, vous voilà donc chambré, mis à l'ombre, pour quelque temps. Je viens vous tenir compagnie et vous consoler. C'est dans l'infortune que les vrais amis se connaissent, et vous savez que mon affection pour vous vous est acquise. » Oh, ne ralliez pas, mine, ce n'est ni le moment ni le lieu. Mais non, je suis parfaitement sérieuse. Il ne vous manquait, pour être tout à fait du bel air, que d'aller en villégiature à Clichy. Un mauvais sujet comme vous, se devait cela. Vous avez marché rondement, grâce à Florence, une fine mouche que j'admire. J'espère que vous serez guéri désormais d'aimer des vertus. C'est trop cher. Avec moi, vous auriez duré 3 ans. Je vous aurais appris une foule de calembours et de plaisanteries, toutes plus drôles les unes que les autres, qui vous auraient rendu agréable en société pour le reste de vos jours. » Dalberg fit un geste d'impatience. « Oh, ne froncez pas les sourcils. Cela vous fera venir des rides entre les yeux. Et recevez gentiment une bonne fille sans rancune, qui vient vous apporter des cigares, du vin de champagne et des feuilletons pour vous distraire. À propos, vous savez sans doute que Calixte se marie avec Rudolphe. » Dalberg bondit sur sa chaise et cria d'une voix rauque, étranglée par la colère, « Mais tu mens !» Non, je dis la vérité. Les bans vont être publiés, s'ils ne le sont déjà. Ah, vous pâlissez, mais vous y tenez donc toujours à cette Calixte. Elle aime Rudolphe. » Dalberg couvrit sa figure de ses deux mains et ne répondit pas, mais bientôt des larmes jaillirent par l'interstice de ses doigts. Rudolf le lui rend bien. Ce sera un ménage de colombes. Ils seront heureux et auront beaucoup d'enfants, comme dans les contes de fées. Tiens, vous pleurez, mais quelle bêtise, dit Amine en écartant une des mains de Dalberg. Il faudra bien pourtant vous habituer à cette idée-là. Je viendrai vous avertir du jour précis de la noce, car il n'est pas probable qu'on vous envoie un billet de faire-part à Clichy. Adieu, mes amitiés à Florence.